Bien, donc nous sommes là ce matin pour parler de l'Église persécutée. Et vous avez pu voir tout à l'heure dans la vidéo notre frère iranien qui parlait de l'importance de ne pas se recroqueviller lorsqu'on est persécuté. Lorsqu'on est persécuté, c'est pas à cause de notre faute. Si nous sommes persécutés, c'est au nom du Seigneur Jésus. C'est parce que nous sommes chrétien, c'est-à-dire dans le sens de qu'on porte le nom de Christ, et que donc c'est en portant ce nom-là qu'on nous persécute à cause de cela. Et donc nous sommes appelés à défendre cette foi, hein, comme Pierre a pu le dire, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. C'est un peu ce qu'on voudrait nous faire aujourd'hui, nous interdire de parler de Jésus partout. Mais Pierre et Jean répondent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Acte 4, versets 18 à 20. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Pierre et Jean étaient des témoins directs de la résurrection du Seigneur Jésus, de sa mort, de sa vie, de sa mort, et puis de sa résurrection. Et il ne pouvait pas ne pas en parler. Mais vous aujourd'hui, qui croyez en sa résurrection, qui croyez à l'œuvre qu'il a fait en vous, il vous a sauvé, il vous a donné la possibilité, la certitude d'être au ciel avec lui pour l'éternité. Cette joie que vous avez, on ne peut pas la garder en nous. On ne peut pas la garder que pour nous. Mais on se doit de leur parler, de partager cela avec tous ceux qui vivent autour de nous. Et donc nous sommes appelés à vivre ouvertement notre foi malgré cette persécution que l'on peut avoir à travers le monde. Et malgré les difficultés que cela peut inclure, que cela peut provoquer, nous sommes appelés à vivre cette foi. Alors on va regarder un peu le contexte de la persécution qui arrivait à Pierre et Jean, et puis à l'Église au départ. Le contexte commence un peu avant, en acte 2. Et je vous propose qu'on lise acte 2, le verset 37 à 47. Je propose que quelqu'un lise ce passage, on va prendre vos Bibles, que tout le monde suive. Et puis on va écouter quelqu'un qui veut bien lire. Actes chapitre 2. Donc les actes, c'est juste après les évangiles. C'est le début de l'Église. Et là, on est au tout début des actes. Actes chapitre 2, versets 37 à 47.
Après avoir entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse.
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres.
Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Merci. Alors, on a ici le témoignage d'une belle vie d'église qui commence très fort, puisque déjà en une réunion publique, on va dire, 3000 âmes sont ajoutées à l'église. C'est beaucoup, hein, quand nous sommes maigrement une quarantaine chaque dimanche ici. 3000 âmes en une seule réunion sont venues s'ajouter à l'église. Et ils se réunissaient régulièrement, chaque dimanche. On le voit un peu plus loin que c'était le premier jour de la semaine qu'ils se réunissaient, donc le dimanche, régulièrement. Et ils rompaient le pain, c'est-à-dire ils prenaient la scène. Et on voit que même à l'issue de ce moment de louange et d'adoration où ils prenaient la scène, eh ben, ils avaient certainement une agape aussi, puisqu'ils prenaient un repas, ils partageaient le repas, la nourriture, avec joie et simplicité. Et ils étaient ensemble en un même lieu. Un peu comme nous, là, nous sommes ensemble en un même lieu. Et c'est vrai que cette église, là, se passe très bien. Et se passe très bien parce que, justement, pour l'instant, ils sont entre eux. Ils sont entre eux, ça se passe très bien, ils font beaucoup de choses, ils mettent tout en commun, ils vivent en petite communauté. Mais pour le moment, il n'y a pas de vague, on va dire, puisqu'ils ne vont pas sur le terrain. Ils ne vont pas au-delà de leur communauté. Et donc, ça se passe bien. Ça se passe très bien, ils sont tranquilles, pas de persécution pour le moment. Et du coup, d'autres personnes aussi s'ajoutent à cette église chaque jour. Ils sont là pour parler de ce qu'ils ont vu du Seigneur, que ça fait pas très longtemps que le Seigneur les a quittés. Et ils sont encore dans cette joie de savoir que le Seigneur est ressuscité. Et de savoir tout ce que le Seigneur leur a promis, qu'il reviendrait, qu'il leur préparait une place pour être au ciel avec lui pour l'éternité. Toutes ces choses-là faisaient leur joie et leur communion. Et on pourrait se poser la question, qu'en est-il de notre Église aujourd'hui ? Notre Église aujourd'hui, quelquefois, elle peut ressembler à cela. Je voudrais dire, peut-être employer le terme de club, mais se retrouver, on est bien entre nous, on passe des bons moments, on se connaît, on fait des agapes de temps en temps, on est bien dans nos petits locaux ici, pas trop visibles d'ailleurs, faut bien regarder pour arriver à les voir, hein, malgré qu'on essaie un petit peu d'être visible, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et finalement, on est très bien comme ça. Pardon. On est très bien parce que c'est que le dimanche qu'on se retrouve entre nous et personne ne vient nous embêter parce que personne ne nous pose la question, heureusement peut-être, de qu'est-ce qu'on fait ce dimanche. Parce que nos collègues, nos amis, nos voisins, ils dorment bien le dimanche matin. Donc ils se gardent bien de nous poser la question, qu'est-ce qu'on fait dimanche matin? Et on peut continuer notre petite vie de chrétien tranquillement, en venant le dimanche matin à l'église avec nos frères et sœurs. Sans que ça fasse de vagues, sans qu'on puisse être persécuté, ni rien. Et peut-être que ça devrait nous poser question quand même. Notre vie d'église, est-ce que c'est à ça que le Seigneur nous a appelé? Est-ce que le Seigneur nous a appelé à simplement nous réunir, l'adorer, bien sûr. C'est ce qu'il demande, ça lui fait plaisir qu'on soit là pour l'adorer. Mais il nous a très clairement donné une mission avant de partir. Il a dit, allez parmi toutes les nations jusqu'au bout de la terre. Convertissez-les. Ah, mais pour convertir, il faut peut-être parler, il faut peut-être s'exprimer au-delà du dimanche matin, au-delà des locaux de l'église locale, pour pouvoir les convertir et puis pouvoir les amener au baptême. C'est ce que le Seigneur nous a demandé. Et ça nous invite à agir, chacun individuellement, à nous poser la question, qu'est-ce que je fais, moi? Est-ce que j'agis? N'est-ce pas? Alors, lorsque on va commencer à agir, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est l'étape suivante. On passe en acte chapitre 3. Et donc, on va lire ces versets suivants, Actes chapitre 3, versets 1 à 21 et 4, versets 1 à 22. Actes chapitre 3, versets 1 à 21. Je vais peut-être les lire sur ce passage-là, puis il y aura d'autres occasions de lire pour vous. Actes chapitre 3. Et Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, qui est la neuvième, et on portait un homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère, lequel on mettait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, en voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Et Pierre, ayant avec Jean arrêté ses yeux sur lui, dit « Regarde-nous ». Et il les regardait avec attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre dit « Je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et l'ayant pris par la main droite, il le leva, et à l'instant, les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes. Et faisant un saut, il se tint debout et marcha. Et il entra avec eux au temple, marchant et sautant et louant Dieu. Et tout le peuple vit marchant et louant Dieu. Et ils le reconnurent comme celui qui était assis pour demander l'aumône à la belle porte du temple. Et furent remplis d'étonnement et d'admiration de ce qui lui était arrivé. Et comme il tenait par la main Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique appelé de Salomon. Et Pierre, voyant cela, répondit au peuple : Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci ? Ou pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous ? Comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou notre piété. Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate lorsqu'il avait décidé de le relâcher. Mais vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât un meurtrier et vous avez mis à mort le prince de la vie, lequel Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins. Et par la foi en son nom a raffermi cet homme que vous voyez et que vous connaissez. Et la foi qui est par lui a donné à celui-ci cette entière disposition de tous ses membres, en la présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous l'avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous les prophètes, savoir que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc, et vous convertissez, pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la présence du Seigneur, et qu'il envoie Jésus-Christ, qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. Et on saute un peu plus loin au chapitre 4, versets 1 à 22. Mais comme il parlait au peuple, les sacrificateurs et le commandant du temple et les sadducéens survinrent, étant en peine de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient par Jésus la résurrection d'entre les morts. Il faut savoir que les Sadducéens, ce sont des religieux juifs qui reniaient la résurrection des morts. Ils disaient que ce n'était pas possible. Mais plusieurs de ceux qui avaient ouï la parole crurent, et le nombre des hommes se monta à environ 5000. Et il arriva que le lendemain, leurs chefs et leurs anciens et leurs scribes s'assemblèrent à Jérusalem, et Anne, le souverain sacrificateur, et Caïphe, et Jean, et Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race souveraine sacerdotale. Et les ayant fait comparaître, il leur demandait « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait ceci ?» Alors Pierre, étant rempli de l'Esprit Saint, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, si aujourd'hui nous sommes interrogés au sujet de la bonne œuvre qui a été faite à un homme impotent, et qu'on veuille apprendre comment il a été guéri, sachez, vous tous et tout le peuple d'Israël, que ça a été par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. » Pardon. C'est, dis-je, par ce nom que cet homme est ici devant vous, plein de santé. Celui-ci est la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre angulaire, et il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faille être sauvés. Et voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, et s'étant aperçu qu'ils étaient des hommes illettrés et du commun, il s'en étonnait, et il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Et voyant là présent avec eux l'homme qui avait été guéri, et il n'avait rien à opposer. et leur ayant ordonné de sortir du Sanhédrin, ils conférèrent entre eux disant « Que ferons-nous à ces hommes ?» Car il est apparent que tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle notoire a été fait par eux, et nous ne pouvons le nier. Mais afin que cela ne soit pas répandu davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler davantage en ce nom à qui que ce soit. Et les ayant appelés, ils leur enjoignirent de ne plus parler ni enseigner en aucune manière au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean, répondant, leur dirent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu. Car pour nous, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. » Et après les avoir menacés, ils les relâchèrent, ne trouvant pas comment ils pourraient les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui avait été fait. Car l'homme en qui avait été faite cette miraculeuse guérison avait plus de 40 ans. Donc, jusque-là, on voit donc que on a une action qui va provoquer la persécution. C'est tout simplement ce qu'on appellerait aujourd'hui le témoignage. Certes, il y a une guérison miraculeuse, mais chacun d'entre vous, lorsque vous êtes converti, je l'espère, ou lorsque on se convertit généralement, cela fait un grand changement dans notre vie. Et ce changement, en généralement, est visible. Et on peut témoigner de cela, on peut parler de cela. Les gens voient autour de nous ce changement-là. Et c'est très important parce que lorsqu'on va parler de ce changement, lorsqu'on va témoigner de cela, eh bien ça peut déranger parce que ça peut interpeller, dire mais comment c'est possible? Comment est-ce qu'on a pu changer d'une telle manière? Comment est-ce que ce boiteux, qui ne pouvait pas marcher depuis très longtemps, il avait 40 ans. Comment est-ce qu'il a pu, d'un seul coup, se mettre à sauter, à bondir, à marcher en quelques secondes? Et ce qui est très important dans ce témoignage, c'est l'origine de ce changement. L'origine de ce changement, eh bien, c'est le Seigneur Jésus. C'est pas Pierre ou Jean qui ont fait ça, c'est pas le pasteur un tel ou tel évangéliste ou tel missionnaire qui a permis que je vienne à Christ. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui est entré dans ma vie, dans mon cœur, et qui a changé ma vie, qui a changé ma manière de faire, de penser, de dire, de vivre. Et cela doit se voir. Et lorsque l'on va témoigner, eh bien, ça va bouleverser quelques petites choses. La première chose qui a été bouleversée ici, eh bien, c'est que les disciples ont touché au statu quo religieux. En effet, cet homme malade était habituellement assis devant la porte du temple. Et les gens avaient l'habitude de lui faire de l'aumône, faire une bonne œuvre, parce que beaucoup aiment bien... Ça fait bien de faire le bien encore aujourd'hui, pour l'instant. Il a encore bien vu de donner pour les bonnes œuvres, donc donner pour quelqu'un qui est boiteux, toujours entré du temple, ben, ça faisait du bien de donner à chaque fois qu'on rentrait, parce qu'on se disait, ben, je fais du bien, tu vois, Dieu, je suis un homme bien, je donne mon argent à ceux qui en ont le besoin. Et Pierre et Jean, en guérissant cet homme, en lui apportant ce qu'il avait réellement besoin, c'est lui apporter le Seigneur Jésus, eh bien, ça détruit cette manière de faire. Ils n'ont plus cette possibilité de pouvoir montrer devant les hommes les choses visibles, comme quoi ils seraient potentiellement bien. Et ça perturbe un peu les religieux de l'époque qui étaient là encourager finalement à ce qu'on donne, bien sûr, aux pauvres, mais aussi au trésor du temple, n'est-ce pas? Ensuite, parce qu'il dérange la paix sociale, mais ce miracle-là, il était visible, et ils ne s'en sont pas cachés, et non seulement ils ne sont pas cachés, mais en plus, le boiteux, il va crier et chanter sa joie à travers le temple. Et le temple, c'est la place centrale de Jérusalem, là où tout le monde va. Beaucoup viennent à Jérusalem, c'est pour aller au temple. Donc ils sont très nombreux sur place. D'ailleurs, on voit que 5000 personnes vont se convertir suite à ce témoignage-là. 5000 personnes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas peu de monde autour, il y avait beaucoup de monde qui était là. Et bien sûr, bah, ça va déranger la routine habituelle de ce qui se passait dans ce temple. Parce que bah, depuis des décennies, même des siècles, hein, ça se passait tranquillement. Ça fait 400 ans que tout tournait, on va dire, rond, tranquillement, sans trop de perturbations. Ouais, un petit peu avec le occupant romain, etc. Mais en gros, les choses étaient bien établies. On vient au temple régulièrement, on fait ses offrandes, etc. On vient voir les chefs religieux. Et là, il y a un témoignage qui vient perturber cela en plein cœur de Jérusalem et qui va amener une foule entière à se poser des questions, à se demander qu'est-ce qui se passe. Et là, ça fait ça dérange finalement la tranquillité de la vie, parce que finalement, tout ce que demandent les chefs de nos pays, des autorités de nos pays, mais aussi les chefs religieux, des autorités religieuses classiques, eh ben, c'est finalement la routine. Tant que tout se passe pareil, de la même manière, on est tranquille, pas de problème, pas de persécution, pas de risque que les Romains viennent nous embêter, pas de risque que les autorités viennent nous embêter tant qu'on reste tranquille. Mais si on commence à amener des foules à changer, à se poser des questions, là, c'est embêtant. C'est là qu'on va déranger. Et c'est là que ça devient insupportable. Et donc après, ils continuent, parce que non seulement ils ont témoigné de ce que Jésus a fait dans la vie de cet homme important, mais en plus, ils accusent les Juifs d'avoir crucifié Jésus. Et nous, quand on témoigne, on se doit aussi d'accuser, c'est-à-dire de mettre le doigt sur le fait que nous sommes pécheurs. Parce que lorsqu'ils accusaient les Juifs d'avoir crucifié Jésus, c'était pour mettre en avant le fait qu'ils étaient des pécheurs, parce que eux, ces chefs religieux dans le temple, et beaucoup de Juifs se pensaient des hommes bien. Ben oui, ils venaient au temple, ils accomplissaient ce qui était normal de faire, habituel de faire, et donc on ne peut pas leur dire, ben non, c'est pas bien, vous êtes pécheurs. Ils vont dire, mais non, je ne suis pas pécheur, on n'a rien fait de mal, au contraire, on fait ce que les chefs religieux nous demandent de faire. On vient au temple. Et donc là, Pierre et Jean disent, oui non, vous ne pouvez pas dire que vous êtes bien. Vous avez crucifié Jésus-Christ, le juste. Ce n'est pas petite faute. Et c'est pareil aujourd'hui, lorsqu'on témoigne, nous, eh bien beaucoup de nos concitoyens vont nous dire, mais moi je suis un homme de bien, j'ai jamais fait de mal. Jamais menti, jamais volé, jamais... J'ai eu une mauvaise pensée. Bon, ils vont dire, oui, non, mais ça compte pas. Je respecte mon prochain, je vais régulièrement à l'église, je fais mes prières tous les jours. Donc, je suis quelqu'un de bien. Et c'est notre devoir d'accuser, entre guillemets, de dire, non, non, tu es pécheur. Tu as besoin de te repentir. Parce que tant que tu ne reconnais pas Jésus-Christ dans ton cœur, c'est que tu t'opposes à lui. Tu t'opposes à Dieu et tu ne lui obéis pas. Si tu n'obéis pas à Dieu, c'est déjà le premier des péchés. Parce que c'est ton Créateur. Et donc, effectivement, si non seulement on dérange les habitudes, on ameute les foules, et en plus on accuse, on dit que finalement ils sont pas si bien que ça, bah là, ça dérange beaucoup. Et enfin, on annonce la résurrection de Jésus, parce que c'est bien de dire qu'on est pécheur, c'est bien de témoigner, d'annoncer ce que Jésus a fait dans notre vie, mais c'est pas ce que Jésus a fait dans le passé. C'est ce que Jésus fait maintenant, aujourd'hui encore, qui est important. Parce que Jésus, il est vivant. Il est ressuscité. Il continue d'agir. Et donc, on ne peut pas témoigner, dire qu'on est chrétien, et ne pas parler de la résurrection de Jésus. Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi, elle ne sert à rien. Elle n'a pas de sens. Et donc, on annonce la résurrection de Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même encore aujourd'hui, bon, personne, peu de gens pensent qu'il est possible de ressusciter, que la résurrection existe. Pour eux, bien sûr, ils savent tous qu'on dit que Jésus a été ressuscité. Bon, au mieux, ils pensent que c'est un mythe. Au pire, ils pensent que c'est vraiment du blabla. Mais nous, on annonce que c'est une réalité. Que Jésus, non seulement est venu, il est mort, mais il est ressuscité. Et il vit aujourd'hui. Et il s'occupe de nous. C'est ô combien important. N'est-ce pas ?
Amen.
Et alors nous ? Quand est-ce que nous provoquons la persécution ? Exactement de la même manière, lorsque nous témoignons. Si nous allons sur la place publique témoigner, c'est là que vous allez voir l'opposition. C'est sûr que si on reste dans l'église, chaque dimanche, pas de problème, vous n'allez pas être persécuté. On peut faire des agapes, avoir des très bons moments, c'est génial, c'est très bien. Mais il n'y aura pas de persécution. Et il y en a un qui se frotte les mains, il dit c'est très bien, il reste entre eux, qui continue comme ça. C'est pas grave, ils sont déjà convertis, c'est trop tard. Donc, qui reste entre eux, qui s'amuse bien, voilà. Surtout qu'ils n'aillent pas sortir dans la rue et aller dire aux autres qui se convertissent, qu'ils en amènent d'autres. Hein? Donc, tant qu'on fait rien, on n'est pas embêté, pas de persécution, et c'est très bien comme ça, se dit-il. Mais si on sort dans la rue, là, on va avoir l'opposition. Et je peux vous assurer que même en France, il y en a. Si vous sortez dans la rue, vous allez voir que si vous a parlé de Jésus, ça ne va pas être facile. Essayez de distribuer des évangiles dans la rue, vous allez voir un peu tout ce qu'on va vous dire comme nom d'oiseau très sympa. Et encore, ça, c'est pas grand-chose, on peut aller plus loin, ça peut être beaucoup plus sévère que cela. Je ne parle pas également de parler à votre travail, de rompre les habitudes. Allez parler à vos collègues, à votre patron, que vous êtes chrétien. Ne serait-ce que de dire ça, déjà. Là, ça peut bousculer un petit peu les choses et amener quelques difficultés. La persécution ne tardera pas d'arriver. Je peux vous l'assurer. C'est pareil à l'école, avec les voisins aussi. Vous risquez d'être regardé un petit peu bizarrement, de travers. Dire, c'est quoi celui-là, là Autant, si il va le dimanche à l'église, ça ne me dérange pas trop. Mais s'il commence à parler à chaque fois que je le vois de son Dieu, s'il commence à parler à chaque fois de Jésus qui est ressuscité, que je devrais peut-être venir à l'église, alors là, ce voisin-là, il va commencer à me déranger. Hein. Et la persécution va aussi commencer à venir, parce qu'il va se liguer avec les autres voisins, et ainsi de suite. Donc, peut-être qu'il faut qu'on se pose la question, si nous ne sommes pas persécutés, est-ce normal ? Est-ce juste ? C'est peut-être que nous gardons notre foi pour nous et que nous ne la partageons pas, n'est-ce pas ? Regardons le témoignage de Michael Yatt. On ne va pas le regarder, on va l'écouter, je vais vous le lire. Qui est un pasteur au Soudan, qui a été emprisonné parce que sa foi était trop visible. De passage à Khartoum, la capitale du Soudan, le pasteur Michael Yatt a été emprisonné pendant 6 mois pour avoir prêché une seule fois. L'église dans laquelle il a parlé avait été partiellement détruite par les autorités soudanaises. Tout comme Pierre et Jean, Michael a dérangé la paix sociale en dénonçant la vente controversée des terres et des biens de l'Église, ainsi que le mauvais traitement que subissent les chrétiens au Soudan. Inculpé et risquant la peine de mort, il se retrouve en cellule avec 17 autres détenus. Et là, bah, il continue. Il annonce la résurrection de Jésus. C'était une occasion rêvée pour transmettre l'évangile. Quand je leur ai expliqué que je risquais la peine de mort, ils m'ont dit « Mais pourquoi es-tu si joyeux ?» S'ils veulent te tuer. Je leur ai parlé du Christ et du ciel. Beaucoup de condamnés ont pu entendre l'évangile. Une partie de ceux qui ont été conduits au Christ ont été plus tard exécutés. C'est une consolation de savoir qu'ils sont allés auprès de Jésus. C'est un témoignage extraordinaire. Alors bien sûr, personne ne souhaite aller jusque-là. Et je ne vous le souhaite pas non plus. Et grâce à Dieu, pour le moment, en France, on ne risque pas d'aller jusque-là. Mais déjà, si on témoigne, si on ose parler, nous aurons quelques persécutions. Sachant que ça n'ira pas jusque-là, on ne devrait pas craindre, n'est-ce pas, d'aller plus loin. On continue. Les sources de l'opposition, d'où vient l'opposition qui s'abat sur nous lorsqu'on témoigne? Pierre et Jean sont arrêtés à la fois par les sacrificateurs, les commandants du peuple et les sadducéens qui vont les attraper et les arrêter physiquement, hein, les conduire devant un simulacre de tribunal, hein, un peu comme l'a pu l'être Jésus finalement au tout début. Pourquoi est-ce que les commandants du temple vont arrêter Jésus? Ben d'abord parce que, Jésus bien sûr, mais pourquoi ils ont arrêté là Pierre et Jean? Ben parce que ils dérangent l'ordre public. Et si on prend l'exemple, on a l'exemple en Chine actuellement, et on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, le pasteur Wang Yi. En Chine, depuis la nouvelle ordonnance religieuse du 1er février 2018, c'est assez récent, destinée à s'initier le christianisme, de nombreuses églises ont été forcées d'installer des caméras de surveillance. Et les prédicateurs, choisis par le gouvernement, sont contrôlés pour s'assurer que leurs sermons n'abordent pas de sujets qui contiennent des influences étrangères. Le gouvernement veut créer un christianisme adapté à la culture et au régime chinois. La plupart des chrétiens, cependant, ne se réunissent pas dans les églises enregistrées et sanctionnées par l'État, mais dans des églises clandestines. Des responsables d'églises ont été harcelés, emprisonnés, torturés ou ont disparu. Il faut savoir que en Chine, ils ont mis en place, l'année dernière, en même temps que ça, on parle de mettre des caméras à l'entrée des églises, mais elles sont aussi dans les rues, et ils ont mis en place la reconnaissance faciale. Automatique, c'est-à-dire que dès que vous sortez de votre maison, les caméras reconnaissent qui vous êtes, ils voient ce que vous faites. Si vous faites d'ailleurs une faute, si vous traversez la rue sans attendre le feu vert, etc., vous recevez une amende, vous êtes sanctionné automatiquement. Et si vous allez à l'église, vous êtes catalogué, classé. Celui-là, pas bien, à surveiller. Il ne va pas pouvoir aller faire des études, il ne va pas pouvoir s'inscrire à l'université, par exemple, pour les jeunes. On va lui refuser des postes dans la fonction publique, par exemple, ou des postes à responsabilité dans l'entreprise. De cette surveillance découle toute une série de persécutions, même pas physiques, mais persécutions au quotidien, à petit feu. On les empêche d'agir. Et voilà donc le témoignage du pasteur Wang Yi, donc qu'on a vu tout à l'heure parler, qui risque 15 ans de prison en Chine pour avoir dérangé l'ordre public. Le pasteur Yang Yi, juriste de renom, est connu pour ses discours sur la liberté religieuse. Cela lui a déjà valu d'être arrêté à plusieurs reprises. En Chine, beaucoup d'églises choisissent de rester petites et discrètes. Mais le rêve du pasteur Wang Yi est que l'église chinoise soit une lumière sur une colline, comme on l'a entendu tout à l'heure. Le pasteur Wang Yi, son épouse Jiang Rong et d'autres responsables de leur église de 750 membres s'attendaient à être arrêtés un jour ou l'autre. C'est ce qui s'est passé le 9 décembre 2018 à Chengdu, dans la province du Sichuan. Ce dimanche soir, plus d'une centaine de fidèles ont été interpellés à l'église, à leur domicile ou dans la rue. S'ils ont pour la plupart été libérés après avoir été interrogés, Wang Yi et 10 responsables sont restés en détention. Il encourt une peine de 15 ans de prison pour incitation à la subversion contre le pouvoir de l'État. Quelques semaines avant d'être arrêté, le pasteur Wang Yi a rédigé sa déclaration de désobéissance fidèle. En voici un extrait. La Bible nous dit de respecter les autorités, mais elle ne nous dit pas d'aller à l'encontre de notre conscience ou du message de l'Évangile. L'Église utilise donc les moyens pacifiques pour manifester sa foi et répandre l'Évangile. En tant que pasteur, ma désobéissance fait partie du mandat de l'Évangile. Le grand ordre de mission du Christ exige de nous une grande désobéissance. Le but de la désobéissance n'est pas de changer le monde, mais de témoigner d'un autre monde. Voilà ce qui a valu à Wang Yi d'être arrêté. Et il n'est pas encore jugé a priori, mais lorsqu'il sera jugé, il risque 15 ans de prison. Il sera certainement emprisonné durablement. Et on peut continuer à prier pour lui. Mais effectivement, il ne s'est pas résigné. Dans ce pays de la Chine qui veut contrôler, où l'autorité veut contrôler l'Église, une église à l'image de l'État finalement, une église bien tranquille qui reste bien dans ses locaux, qui ne bouge pas, qui ne va pas dire un mot de travers, pas remettre en question l'autorité. Il n'a pas voulu de ça, il a voulu d'une église qui est visible, qui ose dire les choses, dire la vérité de la parole de Dieu. Et si l'autorité va à l'opposition de Dieu, ben, il ose le dire. Et ça provoque bien sûr des persécutions. Mais ce qui se passe en Chine, ça peut arriver très très vite partout. En France, la reconnaissance faciale existe aussi. Elle a été mise en place l'année dernière au carnaval de Nice, où la vidéosurveillance a été mise en place avec reconnaissance faciale des personnes, bien sûr, dans un objectif louable qui est de lutter contre le terrorisme. Mais il n'empêche que les ordinateurs super puissants sont capables de reconnaître toutes les personnes à partir d'une simple photo. Ils peuvent reconnaître n'importe qui sur les vidéos de la ville. Ils ont mis en place aussi dans le sud de la France, à Marseille, je crois, et dans une autre ville, dans des lycées, surveillance à l'entrée du lycée, pareil, la reconnaissance faciale pour vérifier que ce sont bien les élèves du lycée qui rentrent dans l'établissement. Toujours pareil pour lutter contre les risques terroristes, etc. Alors pour l'instant, en France, la CNIL, le gendarme des libertés informatiques, freine des quatre fers en disant que c'est un très grand danger que de la reconnaissance faciale. Mais combien de temps la CNIL va tenir à s'opposer à ce qu'on généralise ce genre de choses? Et effectivement, c'est très simple une fois que c'est autorisé, eh bien de reconnaître tout le monde dans la rue, sur les vidéos sur YouTube, etc. Et finalement, de cataloguer, de classer, de pouvoir après s'opposer à certaines choses sans qu'on s'en rende compte. Tout va tellement vite. Dès qu'on déclare une naissance, par exemple, on reçoit tout de suite une série de publicités qui est assortie à ce qu'on vient de nous arriver. Vous achetez une voiture, vous déclarez à la préfecture votre voiture et vous avez tout de suite, dans la semaine qui suit, toute une série de propositions pour l'entretien de vos voitures, etc. Comme c'est curieux. On voit qu'aujourd'hui, une simple information, très simple, provoque toute une série de réactions. Et il pourrait en être tout aussi facilement le cas vis-à-vis des chrétiens. Une simple information, il est chrétien, il va à l'église. Pourrait provoquer toute une série de réactions derrière non maîtrisées et une persécution qui peut venir très très vite. Ensuite, on pourrait se demander pourquoi, dérangeur public, pourquoi est-ce que les sacrificateurs ont participé à l'arrestation de Pierre et Jean? Mais parce qu'ils ont dérangé l'ordre religieux. Ils étaient dans le temple. C'est un peu comme si aujourd'hui vous alliez. Je ne vais pas dire à Notre-Dame à Paris, parce qu'en ce moment, ce n'est pas trop possible, mais si vous étiez allé dans un grand temple du catholicisme français où tout le monde fait amende honorable en disant que c'est très bien d'y aller, hein, finalement, tout le monde y va, tous les grands politiciens y vont, à chaque fois, qui a un événement dramatique, et bien hop, on se réunit tous dans ces églises catholiques là, on y va tranquillement, on a une petite messe bien tranquille, bien encadrée, qui ne bouge pas les lignes, et là, ça ne dérange pas. Imaginez maintenant que quelqu'un aille dire, mais non, non, c'est pas ça que dit la Bible. Si je vais dans cette grande cathédrale et je lui dis, non, c'est pas ça que dit la Bible. Je pense que je vais déranger. Pas qu'un peu. Et je pense que les premiers qui vont me mettre dehors, ce sera effectivement les évêques et archevêques qui sont présents sur place. Malheureusement. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe en Iran. Avec le témoignage de Mehdi Jiba. L'Iran est une république islamique où les chrétiens n'ont pas le droit de prêcher publiquement. Il est interdit aux musulmans de changer de religion. Mais le pasteur Mehdi Jiba préférait obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Secrètement, il évangélisait les musulmans et beaucoup d'entre eux ont accepté Christ. Dans les années 90, Mehdi et deux autres responsables chrétiens iraniens ont été emprisonnés pour avoir prêché aux Iraniens musulmans. La vie en prison du pasteur Jiba était dure. Un jour, les autorités l'ont isolé et les autres prisonniers et l'ont placé dans une cage mesurant 1 mètre carré. Pendant plusieurs semaines, il a été comme un animal en cage. Pourtant, il ne s'est jamais plaint à Dieu et n'a jamais remis en question la volonté de Dieu pour sa vie. Après 9 ans et demi de prison, il a finalement été libéré et a retrouvé sa famille. Les fondamentalistes musulmans étaient mécontents de cette libération. Quelques mois plus tard, le corps du pasteur Jiba a été découvert poignardé. Il avait dit « Je préfère être en prison et être proche de Dieu plutôt que de vivre dans un château sans Dieu. » Ouais, ça fait froid dans le dos, mais c'est des choses qui arrivent aujourd'hui, n'est-ce pas? Et en France, de temps en temps, on entend des voix qui s'opposent à cette religion, à cet œcuménisme religieux qui existe. Et je pense qu'il faut qu'on montre publiquement que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Il y a quelques semaines, il y a eu le décès de l'ancien président Jacques Chirac. J'ai été très surpris de voir dans les descriptions qu'après la messe à l'église classique, hein, normal, parce que normalement un président français est censé être catholique et donc on fait la messe à l'église, normal. Mais il y a eu aussi un moment interreligieux où étaient présents le grand rabbin de France, le recteur de la grande mosquée de Paris, des représentants catholiques, protestants et bouddhistes. Et tous ont chanté une prière pour notre ancien président. Waouh ! Ça pose question quand même. Ça, c'est le monde religieux tel que les autorités aujourd'hui le souhaitent. Une bonne entente entre toutes les religions qui se battent pas, qui prient pour les autorités, les anciens présidents, comme ça, on est tranquille, ça fait bien, ça montre qu'on a une petite touche religieuse, on est un pays laïque, mais bon allez, on est mis tout le monde dedans, dans le même panier, et hop, ça marche bien. Bon, heureusement, dans l'article, ils ne citaient pas d'évangéliques. Ils ont dit protestants, ils n'ont pas mis d'évangéliques, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y avait aussi un représentant évangélique dedans, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais nous ne devons pas accepter et approuver ce genre de choses. Ce n'est pas du tout ce que le Seigneur nous demande. Là, c'est cautionner toutes ces religions qui n'ont rien à voir avec Dieu, avec notre Dieu. Et effectivement, si on dit cela, et bien on va s'attendre à la persécution, l'opposition. Hop. Alors, je m'arrive. Donc, on a vu tout cela. Et puis enfin, le dernier point, c'est on contredit l'ordre idéologique. Et en France, l'ordre idéologique, donc là, c'était les Sadducéens qui s'opposaient parce que, bah, idéologiquement, c'était pas possible qu'il y ait de résurrection. Ils étaient tous d'accord là-dessus. Ils disent non, il n'y a pas de résurrection possible. Donc les Sadducéens étaient très opposés à cela. En France, aujourd'hui, il y a aussi une idéologie très marquée qui est le matérialisme. N'est-ce pas? Et je dirais même l'athéisme. Essayez de parler de créationnisme. De dire que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. On va vous dire, mais c'est pas possible. Vous êtes anti-scientifique, c'est pas logique, c'est évident que c'est l'évolution qui est par une chance infinie, parce que c'est des milliards de chances qui se sont reproduites, et puis comme c'est pas possible en un temps très court, et bien on rajoute des milliards d'années pour que ça, au cours de milliards d'années, ben c'est très forte improbabilité que la mutation générique soit passée, ben ça finisse par se passer à force de milliards et de milliards d'années, hein. C'est la seule solution qu'on a trouvée pour justifier l'évolution. Mais aller remettre ça en question, dire mais comment est-ce que vous pouvez croire à la création? Moi je dis mais comment est-ce que vous pouvez croire qu'une mutation qui est impossible, impossible, se soit passée des milliers de fois, et que vous me dites que du coup, ben, pour que ce soit passé, il faut rajouter des milliards d'années, alors qu'il n'y a rien qui permet de justifier ces milliards d'années. Rien du tout. Mais c'est la pensée commune. Essayez de dire le contraire, vous allez faire jeter à l'école. Essayez de dire qu'il y a autre chose peut-être que l'évolution. Ne serait-ce que poser la question, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Vous allez voir l'opposition que vous allez avoir. Ça ne sera pas gentil. En France, on parle beaucoup de la laïcité, mais en réalité, on sait très bien que derrière cela, c'est l'athéisme qu'on promeut. Ou la laïcité, selon cet mouvement interreligieux qu'on a vu, qui s'est passé pour Chirac, c'est ça leur laïcité. C'est-à-dire, tant qu'on est des religions tranquilles qui se réunissent entre eux, qui ne dérangent pas, pas de problème. Parce que ça ressemble à l'athéisme, finalement, c'est la même chose. D'accord? Et là, on ne dérange pas. Donc après, on en arrive devant le tribunal. Eh bien, ce qui se passe à chaque fois qu'on est persécuté, qu'est-ce qui se passe? On nous dit, ben, arrêtez, taisez-vous. Que vous soyez chrétien, ok, pas de problème. Restez dans votre église, restez chez vous, lisez votre Bible chez vous, mais en dehors de ça, pas un mot. Fermez votre bouche, pas question d'en parler, silence au travail, laïcité, laïcité, interdiction de parler. Bon, laïcité, c'est le respect des convictions de chacun. Laïcité, ça a été créé par les protestants, sous Louis XIV, parce que justement ils voulaient pouvoir avoir la liberté de croire en dehors de l'Église catholique. C'est les protestants qui ont demandé la laïcité. Et la laïcité, c'était pas l'athéisme, pas du tout. Et ça a été rappelé encore par plusieurs présidents récemment, notamment François Hollande. La laïcité, c'est le respect des convictions de chacun, la liberté de chacun de croire en Dieu. Et la liberté de croire, ça ne veut pas dire interdire de parler et de dire ce que je crois. Il faut savoir affirmer les choses. Et sinon, si on nous interdit de le faire, il faut avoir le courage de dire « Je dois croire en Dieu plutôt qu'aux hommes. » Je ne sais pas pourquoi ça tape comme ça. On va couper le... Oui, voilà. La liberté de croire en Dieu plutôt qu'aux hommes, et je dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ce que ont dit Pierre et Jean. Les religieux ont dit qu'il fallait qu'ils se taisent, n'est-ce pas? Eh bien, Pierre et Jean ont dit, non, non, c'est pas à vous que je dois obéir. C'est pas à vous que je dois obéir, mais c'est à Dieu. Bon, il veut pas. On nous défend d'aller à contre-courant, on nous défend d'aller témoigner, de parler de notre foi. Mais nous, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et que Dieu nous a dit, que Jésus nous a dit, allez, convertissez-les. C'est notre devoir, c'est ce que nous devons faire. Je voulais lire un dernier témoignage, je m'excuse, ça dépasse un peu le temps, mais on va rapidement terminer là-dessus. Témoignage d'Amarouche et de Sadoui en Algérie. Amarouche et Sadoui forment un jeune couple chrétien d'arrière-plan musulman. Tous deux viennent d'un village de Kabylie, une région montagneuse où l'église connaît la croissance la plus rapide parmi la population berbère. Leur changement de religion leur a valu quelques difficultés. Ils sont les seuls chrétiens de leur famille. Au travail, j'ai peur de la persécution. La pression est pratiquement quotidienne. Je suis policier et chaque matin je me dis que c'est peut-être mon dernier jour dans cet emploi. Je dis franchement que je suis chrétien, mais je fais très bien mon travail. dit Marouche. Dire cela, policier, en Algérie, dire franchement qu'il est chrétien au sein de la police en Algérie, il faut avoir du courage. Sadawi a subi les pressions d'un cousin qui était très opposé à sa conversion. Aujourd'hui, Amarouche et Sadawi sont responsables de jeunesse dans leur village. On y compte 60 jeunes chrétiens entre 16 et 30 ans. Les jeunes de notre église sont très actifs. Je me suis converti la même année que 4 d'entre eux. Maintenant, nous sommes tous les 5 engagés dans la communauté, dit Amarouche. Ils espèrent que l'église gagnera encore en maturité dans les années à venir et que beaucoup plus d'hommes et de femmes serviront Dieu. Nous avons pour vision d'atteindre les 40 villages de notre région et d'implanter une église dans chacun d'eux. Les Kabyles ont soif de l'évangile. Ils constatent que la foi musulmane mène à une impasse. Ils voient le témoignage que nous, petite minorité, nous rendons. Dieu est à l'œuvre. Nous voulons enseigner comment amener les gens à devenir de vrais disciples qui tiennent bon dans leur foi. N'est-ce pas ? Alors, est-ce surprenant toute cette persécution que l'on a dans le monde et que l'on a aussi en France ? Dans la Bible déjà, l'Ancien Testament, on pouvait voir Daniel qui priait chez lui. Mais c'était visible par les voisins. Ben, il a fini dans la fosse aux lions. Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont refusé d'aller se soumettre à l'autorité religieuse, on va dire, politique du pays, ils ont fini dans la fournaise. Et ils ont refusé de se plier à ces autorités. Mais même le Seigneur, après avoir prêché avec force la foi, ce que donne la foi, la force de la foi, la foi qui peut déplacer les montagnes, l'amour, il nous dit en Jean 15, versets 17 à 21, je veux qu'on le lise parce que on oublie des fois cela, du moins on essaie de le passer vite parce que ça dérange un peu. Jean 15, versets 17 à 21. Ah, donc après avoir prêché sur la foi, sur l'amour, le Seigneur termine en disant « Je vous commande ces choses, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. » Donc là, on est sur un passage merveilleux, c'est tout ce qu'on aime bien entendre. Et il continue, juste après. « Si le monde vous hait, » ça devient tout de suite moins beau. Parce qu'il vient de parler d'amour, et il parle « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Oui, le Seigneur a prêché sur l'amour, sur la puissance de la foi, le fait qu'il sera avec nous tous les jours. Mais il nous a avertis. Ils nous persécuteront comme ils ont persécuté le Christ. Un peu plus loin, au chapitre 16, les trois premiers versets, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues, même leur vient que quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. » On le voit bien aujourd'hui, hein. Et ils feront ces choses parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Mais nous sommes appelés justement à le faire connaître, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.
La foi chrétienne est-elle visible à travers ma vie, la vie de notre Église, dans notre quartier, dans notre ville? Quels risques courons-nous? Comment pouvons-nous prier pour les chrétiens persécutés? Mettons-nous à leur place et nous aussi agissons. Nous ne devons pas avoir peur de la persécution, surtout ici, par la grâce de Dieu. Alors, comme on a pu le voir dans le livre des Actes, comme on a pu le voir par le témoignage de l'ensemble de ces chrétiens, eh bien, vivons notre foi, témoignons, annonçons l'évangile, n'ayez pas peur. Vous êtes croyants ? Dites-le. Amen.
Amen.
On va prier. Oui, notre Dieu, notre Père, tu nous as envoyé ton Fils. Et tu l'as envoyé pour nous sauver et nous offrir une place auprès de toi, au ciel, pour l'éternité. Cette perspective nous remplit de joie, de bonheur. Et tu nous donnes la grâce de pouvoir partager de bons moments entre nous, entre frères et sœurs, pour se rappeler de cela. Mais tu nous demandes aussi de partager cette foi. Tu nous demandes de l'annoncer autour de nous. De ne pas la garder pour nous, mais de dire à nos voisins, à nos amis, à nos collègues de travail, sur la place publique, de dire que nous sommes chrétiens. De dire que Jésus-Christ est mort pour nous et ressuscité pour nous. Qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit. Et Dieu et Père, nous voulons te prier pour que tu nous aides à avoir le zèle de la foi. Que tu nous aides à témoigner, à parler de toi tout autour de nous. Et nous voulons te prier, Père, pour te remettre tous ces chrétiens qui, dans ces pays où nous n'avons pas cette liberté de parler de toi, pour que tu les protèges. Nous voulons te remettre le pasteur en Chine pour qu'il puisse être libéré. Te remettre les chrétiens d'Iran, ces jeunes chrétiens en Algérie qui veulent parler de toi, que tu les protèges. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.